Bonjour et bienvenue sur la chaîne podcast d'Anticor. Dans cet épisode, nous vous proposons de revenir sur l'affaire des sondages de l'Élysée, dont le procès s'est tenu en janvier 2022. Nous rappelons que toutes les personnes citées dans ce podcast sont présumées innocentes tant qu'elles n'ont pas fait l'objet de condamnations définitives.
Retour sur une affaire d'État, les sondages de l'Élysée. Entre 2007 et 2012, durant le quinquennat de Nicolas Sarkozy, la présidence de la République a commandé pour plus de 9 millions d'euros d'enquêtes d'opinion à des sociétés amies. C'est un rapport de la Cour des comptes qui met le feu aux poudres en juillet 2009. S'engage alors une bataille judiciaire inédite à laquelle journalistes et citoyens engagés vont prendre part. On découvre dans le secret du palais présidentiel un recours abusif aux sondages, un mépris des règles des marchés publics et des arrangements entre amis. Des commandes ont en effet été passées pour plus de 9 millions d'euros à la charge du contribuable, quand bien même certaines n'avaient un objet manifestement personnel ou partisan. À l'automne 2021, Anticor a plaidé sa cause dans cette affaire. L'association Anticorruption avait porté plainte 11 ans plus tôt pour alerter la justice et dénoncer des faits constituant des atteintes graves à la probité au cœur de l'Élysée sous le mandat de Nicolas Sarkozy. Claude Guéant, Patrick Buisson, Pierre Giacometti, Emmanuel Mignon, les noms des acteurs de cette affaire sont le reflet de toute une époque politique, le début des années 2000. Pour nous éclairer sur cette affaire et évoquer les coulisses du procès, nous recevons en fin d'épisode l'un des principaux acteurs de cette bataille judiciaire, Maître Jérôme Carsenti, l'avocat d'Anticor, qui a plaidé pour cette affaire. Rapport de la Cour des comptes. 16 juillet 2009. Philippe Séguin, premier ministre de la Cour des comptes, rend public le rapport de son institution intitulé « Les comptes et la gestion des services de la présidence de la République ». Le rapport examine l'exercice de l'année 2008 et il s'agit d'une première dans l'histoire de la République. C'est le tout premier contrôle des comptes de la présidence effectué par la Cour des comptes.
C'est une première depuis Louis XVI.
La coutume veut en effet que l'Élysée se considère comme échappant aux règles administratives qui s'appliquent habituellement aux services de l'État, notamment celles qui concernent la passation de marchés publics qui doivent faire l'objet d'appels d'offres. Cette exception s'expliquerait par l'histoire. Selon Bernard Trichet, un des financiers de l'équipe Sarkozy à partir de 2007, qui déclare « La présidence de la République a toujours été considérée comme l'héritière de la monarchie. C'est la coutume et non la loi qui régit ce fonctionnement hors du droit commun. C'est la prérogative régalienne par excellence. » Pourtant, ces usages vont être levés par Nicolas Sarkozy lorsqu'il accède à l'Élysée en 2007. Succédant à Jacques Chirac, dont la fin du quinquennat est entachée par plusieurs affaires, le président Sarkozy veut donner des gages de transparence et de probité.
Le président de la République,
Christian Frémont,
souhaitait que l'Élysée, qui n'avait jamais été contrôlée depuis deux siècles, le soit. Et il souhaitait aussi que l'administration de la présidence soit exemplaire.
Il promet d'ouvrir les portes de l'Élysée et confie donc un audit des dépenses de l'Élysée, soit environ 110 millions d'euros par an, à la Cour des comptes. C'est le début d'un dialogue entre Emmanuel Mignon, fidèle collaboratrice de Nicolas Sarkozy depuis Bercy et sa directrice de cabinet à l'Élysée, et Philippe Séguin, le président de la Cour des comptes. Ensemble, ils doivent déterminer les modalités concrètes de mise en œuvre de la promesse présidentielle, la publication des comptes de l'Élysée. Voici ce qu'Emmanuel Mignon déclare à l'époque au sujet de Philippe Séguin. Nous avons fait lire ses propos.
Au printemps 2008, il m'avait proposé de sanctuariser ce qu'il appelait une liste civile des dépenses, sur lesquelles la Cour des comptes n'exercerait pas son contrôle, citant en particulier les sondages. Je trouvais l'idée inopportune et j'en ai parlé à Nicolas Sarkozy, qui par mon intermédiaire a précisé à Philippe Séguin que son contrôle porterait sur l'intégralité des dépenses.
Le terme de liste civile renvoie à la monarchie. C'était la somme d'argent mise à la disposition personnelle du monarque pour les besoins de sa maison. Aux yeux de Nicolas Sarkozy, cette liste doit faire l'objet d'un contrôle au même titre que le reste des dépenses publiques. En juin 2008, Emmanuel Mignon instaure officiellement une commission d'appel d'offres de la présidence. L'Élysée s'apprête à appliquer le code des marchés publics. Un an plus tard, ce fameux 16 juillet 2009, paraît donc le tout premier rapport de la Cour des comptes sur les dépenses de l'Élysée. Philippe Séguin, dans plusieurs interviews à l'époque de la parution de son rapport en 2009, ne manque pas de relever l'aspect historique de cette décision.
Ça fait 218 ans que le chef de l'État cache ses comptes à l'organe de contrôle. On ne va pas se mettre à faire des reproches à celui qui rompt avec cette tradition. Ça serait quand même, me semble-t-il, assez injuste.
Mais à quel reproche fait-il allusion ? Un passage du rapport en particulier situé à la page 11, dans lequel l'institution lève un lièvre. On peut y lire le message suivant. Les conditions dans lesquelles a été passée et exécutée une convention signée le 1er juin 2007 entre la présidence de la République, représentée par le directeur de votre cabinet, et un cabinet d'études représenté par son gérant, pour un coût avoisinant 1,5 million d'euros, appelaient plusieurs interrogations. La Cour a d'abord relevé qu'en dépit du dépassement du seuil au-delà duquel la passation d'un marché est obligatoire, aucune des possibilités offertes par le Code des marchés publics pour respecter les règles de la mise en concurrence n'ont été appliquées. La Cour a constaté ensuite le caractère non seulement très succinct de la Convention, une seule page, mais également exorbitant au regard des règles de l'exécution de la dépense publique. Dans le cadre de la mission dite d'exécution de sondage, la Convention prévoit en effet que ce cabinet sera chargé de juger de l'opportunité, dans le temps et dans les thèmes, des sondages ou études d'opinion, dont il confiera l'exécution aux instituts spécialisés de son choix, sur la base d'une facturation ponctuelle incluant la rémunération par ledit cabinet de ses sous-traitants techniques. Comme on le voit, le cabinet d'études évoqué par la Cour des comptes disposait d'une totale liberté d'appréciation. Autrement dit, la présidence n'aurait ni la maîtrise ni le contrôle tant de l'engagement que du montant des dépenses correspondant à ce contrat. Aucun bon de commande n'était émis. La présidence recevait l'étude accompagnée d'une facture indiquant le titre du sondage et sa date de réalisation, sans aucun autre élément permettant d'attester de la réalité du service fait et de son coût réel. Parmi ces sondages, la Cour révèle que 15 d'entre eux correspondent à des études d'opinion qui ont fait l'objet de publications dans la presse. Réalisée par Opinionway, il s'agit d'une enquête bimensuelle baptisée Politoscope, qui paraissait notamment dans Le Figaro et sur la chaîne LCI. Pourquoi l'Élysée payait-il pour des études publiées dans la presse ? Faut-il y voir un cadeau ou une faveur faite à certains médias ? Ou plutôt une double facturation mise en place par le cabinet d'études ? Mais la première question que tout le monde se pose à la lecture du rapport, c'est celle de l'identité de ce fameux cabinet de conseil que la Cour des comptes prend soin de ne pas nommer. C'est Mediapart qui le révélera. Il s'agit de Publifact, une entreprise pilotée par Patrick Buisson, conseiller stratégique du chef de l'État, Nicolas Sarkozy. Mais qui est Patrick Buisson ? En novembre 2021, Camille d'Auxerre revient sur son parcours sur France Info.
C'est ce qu'on appelle un homme de l'ombre. Ancien conseiller de Nicolas Sarkozy, la première fois qu'on le retrouve dans les archives, c'est ici, en 1985.
Programme économique du Front National.
C'est lors d'un rassemblement du Front National, dans ses mains, un livre consacré à Jean-Marie Le Pen dont il est l'auteur. Proche du Front National donc, il est aussi rédacteur en chef du journal d'extrême droite, Minute. Après Minute, il passe par Valeurs Actuelles, puis intègre un média davantage grand public, LCI.
Depuis 5-6 ans en France, on voyait monter dans toutes les enquêtes le thème de l'insécurité.
De moins en moins journaliste, Patrick Buisson devient l'homme de la réconciliation des droites. En 2007, il quitte les plateaux télé et devient conseiller de Nicolas Sarkozy, alors candidat à la présidentielle. Il doit l'aider à gagner des voix d'extrême droite.
Historien et journaliste venu de l'extrême droite, Patrick Buisson rencontre Nicolas Sarkozy en 2005. Il obtient rapidement sa confiance et joue un rôle déterminant pendant sa campagne présidentielle de 2007. En lui remettant la Légion d'honneur, Nicolas Sarkozy déclare « Il y a très peu de personnes dont je puisse dire « Si je suis là, c'est grâce à eux. Patrick Buisson est de cela. » À l'Élysée, le président Sarkozy fait de Buisson son plus proche collaborateur. Le Palais signe avec sa société Publifact, le 1er juin 2007, un contrat prévoyant une rémunération mensuelle de 10 000 euros ainsi que la fourniture de sondages à sa libre appréciation dans un budget annuel de 1,5 million d'euros. Raymond Avrillier saisit l'ACADA. Le 4 août 2009, un mois après la publication du rapport de la Cour des comptes, un certain Raymond Avrillier, maire adjoint honoraire de Grenoble et citoyen engagé, rédige un courrier à la présidence de la République. Il y demande la communication des prestations de conseils et sondages de l'Élysée de 2007 à 2009, et notamment les appels d'offres et les factures. Raymond Avrillier se saisit là du droit qu'a chaque citoyen de consulter les documents administratifs. Sans réponse de l'administration interrogée, le citoyen peut saisir la CADA, la Commission d'accès aux documents administratifs, qui peut forcer la main à une administration récalcitrante si elle estime que la requête est justifiée. La présidence ne répond pas à Raymond Avrillier. Le 4 octobre, ce dernier saisit donc la CADA, qui émet un avis favorable à la communication de ces documents. Mais la présidence refuse toujours de les communiquer. Le 14 décembre 2009, Raymond Avrillier dépose donc au tribunal administratif de Paris un recours en annulation du refus de la présidence de la République. Parallèlement, le 5 octobre 2009, à l'occasion de l'audition du ministre chargé des relations avec le Parlement consacré au budget de la présidence, la Commission des finances de l'Assemblée nationale rend publique la liste des quelque 200 sondages payés par l'Élysée. Les députés socialistes pointent un problème majeur. Beaucoup des sondages commandités par l'Élysée finissent dans la presse. Y aurait-il des médias partenaires de la présidence ? Le Figaro a par exemple publié le 4 janvier 2008 un article intitulé « Les vœux de Sarkozy jugés convaincants », avec à l'appui un sondage OpinionWay. Dans le même temps, l'Élysée avait déboursé 11 960 euros pour un sondage post-test des vœux du président commandé par Publifact et réalisé par OpinionWay au soir du 31 décembre 2007. Autre cas problématique, le 1er octobre, Publifact a facturé plus de 15 000 euros pour une enquête sur le climat politique en Île-de-France, exécutée par l'IFOP, au moment même où l'UMP cherchait à départager ses deux candidats pour la tête de liste aux élections régionales de mars 2010 en Île-de-France, Valérie Pécresse et Roger Karoutchi. Le 14 octobre 2009, sur son blog, la députée socialiste Delphine Batteau publie un compte-rendu de l'audition du directeur de cabinet de l'Élysée, Christian Frémont, par la Commission des finances de l'Assemblée. Première question, Christian Frémont affirme que l'Élysée payait pour des tris croisés, c'est-à-dire des tableaux détaillés croisant plusieurs variables et que les médias qui achetaient les mêmes sondages ne recevaient qu'une partie de ce travail. Cette explication est étrange. D'une part, elle est contredite directement par Claude Guéant, qui déclarait auparavant que si un journal achète le même sondage, on n'y peut rien, et d'autre part, la Cour des comptes n'a jamais trouvé de document prouvant cette différence de traitement. Deuxième question, qu'en est-il de la double facturation orchestrée par Patrick Buisson ? Le site Marianne2.fr avait en effet révélé que sur les près de 400 000 euros dépensés par l'Élysée pour le Politoscope, seuls 190 000 euros atterrissaient dans les poches d'OpinionWay. Autrement dit, Patrick Buisson était rémunéré deux fois pour le même travail. Une fois avec le contrat de conseil de 10 000 euros mensuels et une autre fois en ponctionnant près de la moitié des dépenses de l'Élysée dédiées aux instituts de sondage. Face à la commission, le directeur de cabinet du président justifie cette forme de rémunération de Patrick Buisson comme un travail de rédaction des questions et d'analyse. Or, l'Élysée s'était précisément défendu par ailleurs en expliquant n'avoir acheté que des tricks croisés auprès de l'Institut. Pas des questions. Troisième question. Pourquoi l'Élysée a-t-il recours à des prestataires extérieurs pour des montants aussi importants alors qu'il pourrait avoir recours au SIG, le service d'information du gouvernement ? Le SIG, qui dépend de Matignon, a en effet à sa charge trois missions. Analyser l'évolution de l'opinion publique et le traitement médiatique de l'action gouvernementale, informer le public de l'action du Premier ministre et du gouvernement, piloter et coordonner la communication gouvernementale. Anticor saisit la justice. Suite au rapport de la Cour des comptes, l'association de lutte contre la corruption Anticor dépose le 11 février 2010 une première plainte contre X pour favoritisme et détournement de fonds publics. Elle vise notamment la convention commerciale signée en 2007 par l'ex-directrice de cabinet de M. Sarkozy, Emmanuelle Mignon, avec Publifact, la société de Patrick Buisson. Mais le 2 novembre, le parquet de Paris classe cette plainte sans suite, au motif que l'irresponsabilité pénale dont jouit le chef de l'État doit s'étendre aux actes effectués au nom de la présidence de la République par ses collaborateurs. Le parquet considère également qu'Emmanuelle Mignon n'a juridiquement aucun pouvoir en propre. Elle n'a pas de pouvoir personnel, même en cas de délégation de signature. Anticor dépose donc une seconde plainte, cette fois-ci en se constituant partie civile. Cela lui permet de court-circuiter le parquet. Il en revient dès lors au doyen des juges d'instruction, en l'espèce Roger Leloir, de décider d'ouvrir ou non une information judiciaire. Il le fait et désigne pour enquêter le juge Serge Tournaire. Mais le parquet saisit la cour d'appel de Paris, qui estime en novembre 2011 qu'une telle enquête pourrait aller à l'encontre de la Constitution si elle devait conduire le juge à réaliser éventuellement une perquisition au cabinet du président de la République ou à mener des auditions pour établir si le contrat a été conclu et exécuté à l'initiative exclusive de Madame Mignon ou à la demande personnelle du président, car cela reviendrait à ce que ce dernier fasse l'objet d'une action. La Cour d'appel estime ainsi que l'immunité présidentielle dont bénéficie Nicolas Sarkozy doit s'étendre aux collaborateurs du président. Pour de nombreux juristes, il s'agit là d'une interprétation extensive de l'immunité pénale du chef de l'État. Anticor décide alors de se pourvoir en cassation, afin que la plus haute cour tranche cette question de droit. L'immunité du chef de l'État s'arrête-t-elle à sa personne ou s'étend-elle à ses collaborateurs ? Le 19 décembre 2012, un arrêt de la Cour de cassation indique que l'immunité présidentielle ne s'étend pas aux collaborateurs et ordonne que l'information judiciaire soit ouverte. Nouvelle révélation. Dans le sillage de ces interrogations et dans les années du quinquennat Sarkozy qui vont suivre, plusieurs autres rebondissements autour des dépenses liées au sondage vont émerger. En avril 2011, Mediapart révèle que le ministère de la Défense avait commandé des sondages confidentiels sur des questions qui touchaient à la politique intérieure française et au parti présidentiel. Il s'agissait au début de mesurer l'efficacité des éléments de langage utilisés par Gérard Longuet sur la livraison d'armes aux insurgés en Libye et la sécurité des ressortissants français en Côte d'Ivoire dans l'émission Le Grand Jury, diffusé par RTL, LCI et Le Figaro. Mais dans le même sondage Opinionway, sont également sondés les propos qu'il a tenus sur la progression du FN et sur le conflit entre François Fillon et Jean-François Copé, ou encore sur le rôle du Premier ministre et du secrétaire général de l'UMP. Trois questions qui n'auraient jamais dû se trouver là. Quelques mois plus tard, en novembre 2011, un rapport de la Cour des comptes révèle que les dépenses en communication des ministères ont augmenté de près de 50% entre 2006 et 2010. Surtout, la Cour a constaté que certains ministères avaient eu recours à des prestations de conseil et d'assistance en dehors de toute publicité et mise en concurrence. Et de nouveau, dans son viseur, se trouve le cabinet de conseil Giacometti, Perron et Associés. Déjà épinglé pour ses prestations fournies à l'Élysée, on découvre alors que la société travaille également pour le cabinet du Premier ministre, 694 000 euros de commandes, le ministère du Budget, 692 000 euros, mais aussi les ministères de l'Intérieur, de l'Immigration, de la Justice. En tout, la société a alors encaissé 4 millions d'euros d'argent public depuis le début du quinquennat. Les sondages sont rendus publics. Le 17 février 2012, soit 2 ans et demi après sa première demande à l'Élysée, Raymond Avrillier obtient enfin gain de cause. Le tribunal administratif se base sur la loi de 1978 qui donne à tous le droit d'accès aux documents produits par les autorités administratives et donne un mois à l'Élysée pour transmettre à Avrillier la quasi-totalité des documents relatifs aux études commandées entre 2007 et 2009. Les factures, les commandes et appels d'offres liant l'Élysée et les cabinets d'études chargés de commander les sondages. Une victoire pour Avrillier, qui s'interroge. Je m'étonnais que personne n'ait fait cette démarche avant moi, alors que des parlementaires demandaient une commission d'enquête. Je voulais savoir comment était utilisé l'argent de l'Élysée, car j'ai une inquiétude sur le fait que ces sondages aient été utilisés par l'UMP ou dans le cadre d'une campagne électorale. Le 20 avril 2011, 2 mois après le jugement de la Cour d'appel, la présidence se pourvoit en cassation, mais elle se désiste le 12 octobre. Finalement, tous les documents sont transmis et permettent à Raymond Avrillier de révéler le montant total de ses prestations de sondage et conseil de 2007 à 2012. 9 388 201 euros, dont plus de 7,8 millions sans publicité, sans appel d'offres ni consultation. En 5 ans, ce sont donc plus de 400 sondages qui ont été facturés, auxquels s'ajoutent 108 mois de prestations de conseil de Patrick Buisson et Pierre Giacometti. Surtout, certaines enquêtes d'opinion portent sur des thèmes très discutables. On interroge ainsi les répondants, c'est-à-dire les Français, sur leur opinion du couple Nicolas Sarkozy-Carla Bruni, ou sur l'image de personnalités socialistes comme Dominique Strauss-Kahn, qui fait alors figure de candidat potentiel à la présidentielle de 2012. Raymond Avrillier, qui a reçu 4 cartons de documents, explique que ces documents montrent une addiction sondagière, une conduite à la petite semaine, au GPS des sondages. Le 1er mai 2012, il déclare au micro de France Culture
« En décembre 2007, un sondage est commandé sur les Français et la liaison entre Nicolas Sarkozy et Carla Bruni. Quelques semaines après, demande si la rumeur sur son mariage avec Carla Bruni est un des événements qui ont marqué l'opinion. Quel est l'état de l'opinion sur son mariage possible avec Carla Bruni? L'état de l'opinion sur son mariage, puisque ça y est, on y est. Et quelques semaines plus tard, c'est « Pensez-vous que Carla Bruni représente plutôt bien ou plutôt mal la France à l'étranger ?» Le tout suivi d'un sondage toutes les semaines sur le comportement de Nicolas Sarkozy par rapport à sa vie privée, concernant sa vie privée et l'opinion, qui est d'ailleurs très mauvaise, de l'opinion sur son comportement concernant sa vie privée. Certain nombre de ces sondages portent sur des élections des têtes de liste UMP en Île-de-France pour les régionales ou les têtes de liste UMP pour les élections européennes. Mais aussi, tous les mois, dès 2007 et en 2008 et en 2009, pour l'instant j'ai que ça, il y a un sondage chaque mois sur les élections présidentielles de 2012. On peut s'interroger sur le fait que ces sondages concernent plus un parti politique ou un candidat au présidentiel qu'un président de la République. Ce sera au juge, et pas seulement au juge administratif ce coup-là, de regarder ce qui concerne la suspicion de financement par une personne morale, la présidence de la République, d'un parti politique, l'UMP.
En février 2011, un sondage interrogeait les Français sur l'intervention au journal télévisé de France 2 de Dominique Strauss-Kahn, alors probable candidat à la présidentielle. Un autre sondage se penche sur l'électorat écologiste et l'opinion des sympathisants socialistes. On interroge par exemple les Français sur les qualités requises pour être un bon candidat ou un bon premier secrétaire du PS. Il ne s'agit là que d'un échantillon. Les policiers de la brigade de répression de la délinquance économique, chargés de cette enquête avec le juge d'instruction Serge Tournaire, ont épluché une masse d'archives colossales. Celle-ci révèle une présidence Sarkozy dépendante au sondage qui en commande en moyenne pour 2600 euros par jour, plus 1500 euros pour les analyses de Patrick Buisson et du cabinet Giacometti, Perron et Associés. Au total, près de 7,5 millions d'euros hors taxes seront ainsi déboursés entre 2007 et 2012 pour sentir l'opinion. Nicolas Sarkozy recevait même directement certains scores sur son portable, comme l'a confié le publicitaire Jean-Michel Goudard sur Procès-Verbal. Pour prendre des décisions, on a besoin de savoir si ça passe ou si ça casse, justifiera plus tard Claude Guéant. Nouvelle plainte d'Anticor, l'enquête commence.
De nouveaux développements dans l'affaire des sondages de l'Élysée. Une plainte pour détournement de fonds a été déposée aujourd'hui par l'association Anticor. Elle vise indirectement Nicolas Sarkozy et Patrick Buisson, qui étaient chargés des études d'opinion à l'Élysée. Des études qui n'auraient pas fait l'objet d'appels d'offres.
Face à ces révélations et sur la base des documents obtenus par Raymond Avrillier sur la période 2007-2012, Anticor va déposer une nouvelle plainte le 8 octobre 2012 et se constituer partie civile au chef de détournement de fonds publics, complicité et recel. Anticor, par la voix de son avocat Jérôme Carsenti, fonde son accusation sur l'inutilité de certains sondages pour les Français. Elle vise en particulier la convention commerciale signée en juin 2007 par l'ex-directrice de cabinet de Nicolas Sarkozy, Emmanuelle Mignon, avec Publifact, la société de conseil de Patrick Buisson. Cette convention concède à Publifact le versement annuel de 1,5 million d'euros en conseils et sondages, et ce, en sus d'une rémunération mensuelle de 10 000 euros versée à Buisson. La convention est à reconduction automatique. Par le biais de cette convention, Georges Buisson, fils de Patrick et gérant de sa société, obtient pour 300 000 euros de commandes, Ipsos pour 1,8 million d'euros, Opinionway et l'IFOP pour 550 000 euros chacun. C'est ce contrat qui avait été épinglé par la Cour des comptes, car il était passé sans qu'aucune des possibilités offertes par le Code des marchés publics pour respecter les règles de la mise en concurrence n'ait été appliquée. On l'a vu, la Cour d'appel de Paris s'était opposée à ce qu'un magistrat enquête du fait de l'immunité pénale du chef de l'État. Mais la Cour de cassation finit par donner gain de cause à Anticor. Elle casse et annule l'arrêt et l'enquête se voit confiée au juge d'instruction Serge Tournaire, qui a également mis en examen Nicolas Sarkozy dans le dossier du financement libyen. Le 3 juin 2015, le juge ordonne la mise en garde à vue de 6 personnes proches du chef de l'État. Les anciens secrétaires généraux de l'Élysée, Claude Guéant et Xavier Muscat, l'ancienne directrice de cabinet de Nicolas Sarkozy, Emmanuelle Mignon, les anciens conseillers à l'Élysée Jean-Baptiste de Froment et Julien Volpré, et le publicitaire Jean-Michel Goudard. 3 ans plus tard, en 2018, le parquet national financier termine enfin son enquête et le 6 novembre, il requiert le renvoi en correctionnel des proches de Nicolas Sarkozy et des instituts de sondage concernés. Le procès. Le procès de l'affaire des sondages de l'Élysée s'ouvre le 18 octobre 2021 devant la 32e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris, soit plus de 12 ans après le rapport de la Cour des comptes. Ce n'est pas la première affaire dans laquelle le nom de Nicolas Sarkozy est cité. Les sondages de l'Élysée arrivent après l'affaire dite des écoutes, dans laquelle l'ex-président et son avocat Thierry Herzog sont accusés d'avoir corrompu Gilbert Azibert, un magistrat de la Cour de cassation, et après l'affaire Big Malion, qui concerne le système de fausse facturation de l'UMP pendant la campagne présidentielle de 2012 et qui voit Nicolas Sarkozy condamné en septembre 2021 à 1 an de prison ferme en première instance. La presse titre sur les 4000 sondages et sur la furie sondagière de l'ex-président de la République qui atteint un total de près de 10 millions d'euros. Anticor est partie civile au procès. L'association cite Nicolas Sarkozy comme témoin, ce qui fera les gros titres. Dans un premier temps, l'ex-président refuse de se rendre au procès. Mais le juge estime que sa présence en tant que témoin est nécessaire à la manifestation de la vérité puisqu'il était le donneur d'ordre. Un mandat d'amener est donc émis à son encontre par le juge d'instruction, ce qui veut dire que si Nicolas Sarkozy ne s'était pas finalement présenté de lui-même, c'est la police qui se serait chargée de l'escorter jusqu'à l'audience. Comme on le verra dans l'interview, Nicolas Sarkozy se présente donc finalement devant le tribunal, mais il choisit de ne pas répondre aux questions du président du tribunal et se contente de prononcer un court discours pour justifier sa position. Sa défense entière s'appuie sur l'article 67 de la Constitution et sur le principe d'immunité. Le président est pénalement irresponsable pour les actes accomplis en cette qualité. Selon ses avocats, sa venue serait inconstitutionnelle et disproportionnée. Il dénonce un procès politique, un acharnement judiciaire et le non-respect du principe de séparation des pouvoirs. Puis, le parquet national financier fait ses réquisitions. Le vendredi 21 janvier 2022, le tribunal rend son jugement. Le président Benjamin Blanchet déclare « Les prévenus ont non seulement violé l'ordre public, économique, en enfreignant les principes directeurs de la commande publique, mais également rompu le lien de confiance que chaque membre de la communauté nationale est légitimement en droit de tisser avec ses dirigeants publics, élus ou nommés. La répression de comportements de cette nature, symptomatique d'une perte de repères cardinaux et d'un privilège accordé à des intérêts économiques privés. » Claude Guéant, l'ex-secrétaire général de l'Élysée, organisait la signature des contrats de sondage. Il est renvoyé en correctionnel pour favoritisme et détournement de fonds publics par négligence. En janvier 2022, il est condamné pour favoritisme à 1 an d'emprisonnement, dont 4 mois avec sursis, assorti d'un mandat de dépôt. Il était alors déjà incarcéré pour l'affaire des primes du ministère de l'Intérieur. Il est le seul à faire appel de sa condamnation. Emmanuelle Mignon était la directrice de cabinet de Nicolas Sarkozy. C'est elle qui a signé le premier contrat avec Publifact et elle est renvoyée pour les mêmes motifs. En janvier 2022, elle est condamnée à 6 mois de prison avec sursis. Patrick Buisson était en même temps le conseiller politique de Nicolas Sarkozy et le patron des sociétés Publifact et Publiopinion. Il a tiré un profit financier important de ses commandes de sondage. Lui et ses sociétés ont reçu au total 3,3 millions d'euros de l'Élysée pendant le quinquennat. Il est renvoyé pour recel de favoritisme, détournement de fonds publics et abus de biens sociaux. En janvier 2022, il est condamné à 2 ans de prison avec sursis et à 150 000 euros d'amende. Les sociétés Publifact et Publiopinion sont condamnées respectivement à des amendes de 500 000 euros et 50 000 euros. Nocom, la société de Pierre Giacometti, écope de 300 000 euros d'amende et Ipsos, 1 million d'euros pour recel de favoritisme. Pierre Giacometti était le patron de la société Giacometti Perron qui donnait des conseils en stratégie à Nicolas Sarkozy. Il a tiré lui aussi un profit de ses commandes d'études en les facturant plus de 2 millions d'euros. En janvier 2022, il est condamné à 6 mois de prison avec sursis et 70 000 euros d'amende. Jean-Michel Goudard était le conseiller stratégie de M. Sarkozy. C'est lui qui a signé les reconductions des contrats avec Publifact après le départ d'Emmanuelle Mignon. Accusé de favoritisme et mis en examen en 2016, il décède en 2020. Julien Volpré était conseiller technique de Nicolas Sarkozy, chargé de l'opinion. Il participait à la commande et l'analyse des sondages, renvoyé pour le même motif. Il est finalement relaxé. Pour entrer dans le détail de la procédure judiciaire, nous vous proposons maintenant le témoignage de maître Jérôme Carsenti, l'avocat d'Anticor dans cette affaire.
Jérôme Carsenti, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes avocat, membre du syndicat des avocats de France, ancien membre du CNB. Vous êtes également membre du conseil d'administration de la Maison des lanceurs d'alerte et du comité éthique du journal Le Monde. On retrouve dans les affaires que vous portez la lutte contre la corruption, la défense de la probité, de l'intérêt général, notamment auprès de l'association Anticor. Est-ce que vous pourriez nous parler de votre engagement auprès de cette association ?
Rapidement, je suis rentré au sein de l'association dans les années 2005-2006, association qui était une toute petite association et pour laquelle j'avais été très séduit puisque elle prenait 2 choses importantes. D'abord l'éthique, et elle s'inscrivait à ce moment-là dans l'idée qu'il fallait réagir au choc émotionnel et politique de l'élection de Jean-Marie Le Pen au second tour, la qualification de Jean-Marie Le Pen au second tour de l'élection présidentielle. Et j'avais été effectivement sensible à cette idée que des élus viennent dire « Eh bien en fait, les élus sont des gens éthiques, sont des gens qui combattent pour l'intérêt général. Et c'est une minorité qui fabrique du discrédit, qui fabrique en réalité quelque chose qui vient fragiliser la démocratie. Et il faut que les élus se saisissent de la question éthique pour donner du sens à la politique, redonner du sens à la politique. » Et donc, on voit bien aujourd'hui à quel point la démocratie est en danger. Anticor, parce qu'elle défend la démocratie, est au cœur, j'allais dire, des débats contemporains. J'étais un des premiers militants, qu'on était dans un petit cercle, à un moment donné, quand la question s'est posée, parce qu'il faut quand même se souvenir que dans les années antérieures à 2007, 2008, etc., au moment des années Sarkozy, on est indigné par la pratique du pouvoir. La pratique du pouvoir de Sarkozy, c'est tout d'un coup le défi permanent à la loi. Et donc, on a un parquet qui est sous tutelle, on a une presse qui est quand même pas tout à fait libre, en tout cas pas au point où elle est aujourd'hui, et on a une loi qui interdit l'action des associations. La loi, elle dit même que la corruption étrangère a pour monopole d'action le ministère public. Donc en fait, on est à un moment où on est juste indigné et où la politique ne peut pas répondre à l'indignation citoyenne. Et ce qui fait qu'à un moment donné, on se dit il faut peut-être qu'on se saisisse, même en dehors des champs habituels, c'est là, on se dit, si on faisait une action. Pérol, c'est un scandale à l'époque. Hein. L'affaire Pérol, c'est un scandale. C'est-à-dire, il y a une commission d'enquête parlementaire, il y a la presse qui s'agite, il y a Mais finalement, personne ne se saisit de ce dossier.
Est-ce que vous pourriez nous rappeler l'affaire Pérol ?
L'affaire Pérol, qui était François Pérol ? François Pérol, c'était le secrétaire général adjoint de l'Élysée, sous Nicolas Sarkozy, en charge des questions économiques et financières. On est en pleine crise financière, on s'en souvient, et il y a une redistribution, en tout cas une réflexion autour du système bancaire mondial et français. Et dans cette tourmente, il y a une réflexion au sein de l'Élysée, d'ailleurs qui est issue de qui est très ancienne, qui est la question de la fusion des banques populaires et caisses d'épargne. Et on a un secrétaire général, François Pérol, qui va s'occuper de la fusion de ces deux instances bancaires, de ces deux grandes banques, et qui va se faire nommer à la tête de BPCE, nouvellement constituée. On considère à ce moment-là que c'est un vrai conflit d'intérêts, on va le qualifier, nous, de prise illégale d'intérêt. Je le dis tout de suite pour éviter la diffamation, il sera relaxé à la fin.
On est en quelle année, là ?
Là, on est en 2009. Et quand on décide de déposer plainte pour Anticor, je sais très bien à ce moment-là pour Anticor, et je crois de mémoire que ce n'est même pas moi qui rédige la plainte. Je crois qu'à l'époque, c'est le vice-président de l'époque, Eric Alt, qui rédige la plainte. Moi, je la porte, mais on sait très bien qu'on n'a aucune chance, puisque la loi nous interdit toute action. Mais à partir du moment où on va déposer la plainte, et moi je me souviens encore comme si c'était hier de ce moment, lorsque je dépose cette plainte, moi, j'ignore tout du fonctionnement en fait, des médias, comment ça marche, quels sont les ressorts, etc. Et vraiment, on dépose plainte parce qu'on se dit que ça ne peut pas durer, que comme il n'y a pas de réponse, on ne peut pas laisser ça comme ça. Et donc, on dépose la plainte et dans la foulée, j'ai un appel de l'AFP. Je ne sais pas comment ils ont eu l'info qu'il y avait une plainte au parquet d'Anticor. Et j'ai un appel de l'AFP, je décroche, je parle avec eux. Le journaliste, c'était Mathieu Foulque de mémoire, et ça dure, l'entretien dure 2 minutes, je raccroche, et là, ça a été, mon cabinet a été enseveli par les médias, parce qu'il y avait ce besoin, en réalité, de réponse citoyenne. Et l'affaire Pérol, elle va s'arrêter, parce qu'il va y avoir quand même une enquête préliminaire qui se résoudra à l'audition de François Pérol, qui va dire, j'ai rien fait. J'ai fait ce que j'avais à faire, mon travail était bien fait et j'ai pas de conflit d'intérêt. Classement sans suite, et après on poursuivra, et notamment je poursuivrai avec un syndicat pour aller jusque devant la Cour de cassation qui va reconnaître d'ailleurs un arrêt de principe intéressant, puisqu'il va reconnaître l'intérêt à agir d'un syndicat pour des questions de probité, alors qu'on nous avait opposé l'irrecevabilité, etc. Mais je rentre pas dans le détail. Mais voilà! Mon combat et la naissance de mon combat avec Anticor, c'est d'abord un engagement pour sauvegarder, ou en tout cas pour défendre l'idée du politique, et deuxièmement, après, un engagement judiciaire.
L'affaire qui nous intéresse, c'est l'affaire des sondages de l'Élysée. Est-ce que vous pouvez nous dire votre premier souvenir de cette affaire ?
Alors, on est, je crois, toujours dans ces années 2009, et on a été séduit, je dois le dire, par le coup médiatique. Et on s'est dit, finalement, on gagne peut-être pas juridiquement, mais on gagne politiquement. C'est-à-dire qu'on fait avancer la cause anticorruption parce qu'on donne de l'écho à ce qui reste normalement tu. Et donc, publication du rapport de la Cour des comptes en juillet 2009, et on n'a pas tout le rapport. C'est ça qui est intéressant. On a les conclusions du rapport. Et les conclusions du rapport, elles sont assez intéressantes puisqu'elles viennent dire, sans rentrer trop dans le détail, mais en gros, qu'il y a des instituts de sondage qui ont des pratiques étranges, puisque à la fois, on va dire qu'il y a des sondages qui sont facturés plusieurs fois au même prestataire, et donc Publifact, qui est la société montée par Patrick Buisson, bras droit, éminence grise de Nicolas Sarkozy, n'est pas cité dans le rapport. Hein. On parle d'une société, tout est un peu opaque. Mais il dit aussi qu'il y a une convention qui est passée entre une société Publifact et l'Élysée, et que cette convention, elle laisse, c'est ça qui était aussi très intéressant sur le plan politique. Sur le plan politique, on a Patrick Buisson, président de la société Publifact, qui se voit au terme de cette convention libre de fixer le quantum des sondages, la nature des sondages, l'objet des sondages, et pour un prix qui est totalement libre. C'est-à-dire qu'en fait, il avait carte blanche. Et où il y avait une problématique importante sur le détournement d'argent public, c'est que finalement, on avait quelqu'un, Patrick Buisson, qui était présenté comme le bras droit, c'est-à-dire qu'en réalité, il aurait dû intégrer un cabinet politique, il aurait dû être le conseiller payé par l'Élysée de Nicolas Sarkozy, mais que ça, c'était pas assez bien payé. Et que c'était beaucoup, beaucoup plus simple de faire une convention où là, c'était une société et il pouvait facturer librement ses prestations. Et il y a énormément de prestations qui étaient facturées librement et puis qui ne donnaient lieu, en réalité, à aucune contrepartie écrite. Donc, on avait un conseiller occulte, hein, qui avait une rémunération fixe et puis des rémunérations variables sur les sondages qu'il commandait librement en quantité voulue. Et donc c'était un puissant fonds avec de l'argent public. Et on dit aussi que le code des marchés publics, c'est ça qui était intéressant, c'est que le code des marchés publics n'avait pas été respecté. Et donc c'est à commencer, si vous voulez, une réflexion autour, est-ce que le code des marchés publics s'applique, un, à l'Élysée et deux, à des sondages. On reçoit ça, on voit ça, on lit ça et on dit bah, on a déjà marqué un point dans l'affaire Pérol, tentons le coup dans l'affaire des sondages. Parce que en droit, on a raison. Et en tout cas, on s'appuie sur quelque chose pour le coup là, qui n'est pas la presse, qui est un rapport de la Cour des comptes, présidé à l'époque par Philippe Séguin.
Sur ces faits, l'association anticorruption Anticor dépose plainte pour délit de favoritisme le 10 février 2010. Dans quel état d'esprit êtes-vous au moment de ce dépôt de plainte ?
Combatif, toujours. Très combatif, et je sais, et, ouais, peut-être que rétrospectivement c'est prétentieux de le dire, mais je me dis à ce moment-là, tu vas vivre un enfer, parce que s'attaquer à Sarkozy dans sa toute-puissance de l'époque, je me dis, mon cabinet, ça va... Je ne sais pas ce qui va se passer. Donc j'ai à la fois le sentiment d'une certaine gravité, un gros esprit de combativité, mais une inquiétude. Je travaille ma plainte. À l'époque, je crois que c'est Jean-Christophe Picard qui préside l'association. Mais je suis un peu seul, hein, au fond. Là, vous savez que sur le plan procédural, il faut, quand on dépose une plainte, d'abord une plainte au procureur de la République, et on sait qu'il faut attendre 3 mois pendant lesquels c'est gelé. Au bout de 3 mois, la partie civile retrouve ses droits et elle peut déposer une plainte avec constitution de partie civile, ce qui lui permet de voir désigner un juge d'instruction. Donc, on dépose la plainte au parquet, on n'en attend rien du parquet, par définition, puisque le parquet, on sait qu'il est aux ordres. Hein. Et là, se passe quelque chose d'assez intéressant sur le plan procédural. C'est qu'au moment de la plainte avec constitution de partie civile, on a des réquisitions, ce qui n'arrive jamais. Normalement, quand vous faites une plainte avec constitution de partie civile, vous demandez au doyen de désigner un juge d'instruction, c'est quasiment automatique. Enfin, la seule condition, c'est que la plainte vise une infraction existante et que les faits ne soient pas prescrits. Mais au stade de la plainte avec constitution de partie civile, il y a une automaticité, c'est qu'un juge d'instruction est désigné. Sauf dans des cas exceptionnels où à ce moment-là, on a des réquisitions du procureur de la République qui vient dire non, n'enquêtez pas pour une raison majeure. Et là, le procureur de la République va effectivement faire des réquisitions aux fins de non-informer. Il dit, vous n'ouvrez pas d'enquête, vous n'ouvrez pas d'information judiciaire, parce que vous ne pouvez pas le faire. Et qu'est-ce que va invoquer le procureur de la République? Il va invoquer l'immunité du chef de l'État. Et il va dire, il y a une immunité qui est prévue par l'article 67 de la Constitution, qui protège l'Élysée. Et par définition, vous visez Nicolas Sarkozy, même si ma plainte était contre X, hein, elle visait bien sûr le premier représentant de l'État, mais elle visait l'ensemble des gens ayant participé à la fabrication de cette infraction, de ces infractions. J'y reviendrai parce que je vise deux infractions. Je vise le détournement de fonds publics et le délit de favoritisme. Mais je reviendrai sur le détournement de fonds publics.
Le procureur de la République, à ce moment-là, qui est-il?
C'est Marin. Hein, je vous rappelle que M. Marin est celui qui est venu demander la relaxe de Jacques Chirac, hein, procès dans lequel nous étions aussi. Tout ça, c'est quand même... c'est le même temps judiciaire, hein, tout ça. Hein. Je crois que le procès de Chirac, c'est septembre 2011. Donc vous voyez, on est dans le même temps. Et donc, le procureur de la République fait des réquisitions aux fins de non-informer. Il dit, non, vous n'enquêtez pas, parce que l'immunité, c'est celle du chef de l'État, mais elle s'étend à l'ensemble des collaborateurs de l'Élysée. Et donc, vous ne pouvez pas enquêter. Et le parquet dit ça au juge d'instruction. Le juge d'instruction, à l'époque, c'est Tournaire. Et le juge Tournaire va faire ce qu'on appelle une ordonnance de passer outre. Et pour cela, la procédure dit, un juge d'instruction, écoutez bien quand même, hein, ce que ça signifie en termes de procédure, un juge d'instruction qui est un juge indépendant, qui ne veut pas être d'accord avec le procureur de la République, parce qu'il estime que ce que dit le procureur est faux, il doit motiver. Il doit rendre une ordonnance motivée où il explique les motivations. Et le juge Tournaire, il vient dire, la responsabilité du chef de l'État, l'irresponsabilité du chef de l'État, article 67, elle est personnelle, elle est individuelle. Elle ne peut pas s'étendre à l'ensemble de l'Élysée.
Vous parlez de l'article 67 de la
article
Constitution.
Article 67 de la Constitution. Et c'est le parquet qui va faire appel de l'ordonnance de passer outre du juge d'instruction. C'est dans ces conditions qu'il va y avoir la chambre de l'instruction qui va être saisie et qui va rendre un arrêt confirmant en gros l'idée que pour le moment, l'enquête ne peut pas aboutir parce que si on enquête... Alors, pour tout de suite le dire, la chambre de l'instruction dit « Attention, parquet, vous avez confondu... irresponsabilité et inviolabilité. » Vient dire en réalité, l'irresponsabilité pénale, elle est propre au chef de l'État, mais le chef de l'État ne peut pas répondre le temps de son mandat des questions qui vont lui être posées au nom de l'inviolabilité. Article 67, alinéa 2. Et la chambre de l'instruction répond par une sorte de pirouette juridique en venant dire, si vous enquêtez, vous allez devoir entendre le chef de l'État. Or, comme il est protégé par l'inviolabilité, vous allez enfreindre cette disposition constitutionnelle et donc l'enquête devra reprendre à l'issue du mandat de Nicolas Sarkozy, mais le temps de son mandat, vous ne pouvez pas enquêter. On va faire un pourvoi en cassation.
Et est-ce que vous pourriez nous expliquer la position justement d'Anticor que vous défendez à ce moment-là?
À ce moment-là, et d'ailleurs ça va être repris au moment du témoignage de Nicolas Sarkozy, c'est toujours la même rhétorique, on dit une chose simple. Ok, responsabilité pénale du chef de l'État. Je dis, un, il y a ce qu'on appelle une faute détachable des fonctions. L'irresponsabilité, et d'ailleurs l'article 67 de la Constitution le dit, c'est irresponsabilité dans l'exercice des fonctions. Or, je considère à ce moment-là, mais je ne serai jamais suivi, d'ores et déjà, mais je vais le développer jusqu'au bout, je considère à ce moment-là que quand il y a des dépenses de sondage pour savoir si son mariage avec Carla Bruni, ça a des effets positifs dans l'opinion publique, pour savoir quels ont été les effets sur l'opinion publique de telle intervention de François Hollande ou de tel opposant politique, je considère qu'il n'est plus dans les fonctions du président de la République, mais qu'il est où dans ses dépenses personnelles ou dans ses dépenses d'opposants politiques, et que donc on est dans une faute détachable et que l'infraction que je visais de détournement d'argent public est donc une faute qui l'engage lui personnellement, quelle que soit l'irresponsabilité visée par l'article 67. C'est le premier argument. Deuxième argument, ce que je dis, c'est l'irresponsabilité pénale, c'est une irresponsabilité personnelle. Un homme peut être irresponsable pénalement. C'est une dérogation qui, par définition, ne peut qu'être personnelle. Et donc, vous ne pouvez pas l'étendre et vous êtes en train de faire de l'Élysée une citadelle imprenable qui viendrait couvrir d'une immunité théorique un ensemble de personnes qui ont concouru à la réalisation de cette infraction. Et donc, je disais à cette époque que ça n'est pas possible. Et c'est ce qu'a dit la Cour de cassation en disant, dans un arrêt de 2012, non, l'immunité du chef de l'État, l'irresponsabilité pour être précis, ne touche que et seulement que le président de la République.
Sur le premier argument, en revanche, vous n'avez pas été...
Sur le premier argument et jusqu'au bout, ni le juge Tournaire ne m'aura suivi, ni a fortiori la Cour de cassation. Ils vont estimer le juge Tournaire avec qui j'avais eu de nombreuses réflexions et j'ai fait de nombreuses notes en ce sens. Penser que on allait s'embarquer sur quelque chose de trop compliqué, qu'à l'époque, mettre en cause déjà un chef de l'État, c'était quelque chose de très compliqué, et que l'infraction était trop ténue pour finalement être qualifiée, qu'on allait risquer d'être utilisé à des fins d'allongement de la procédure, alors qu'on avait une infraction qui était facile, qui était le délit de favoritisme.
C'est à ce moment-là que l'information judiciaire est officiellement ouverte ?
C'est à ce moment-là que l'information judiciaire est officiellement ouverte. Mais qu'entre-temps, M. Raymond Avrier, militant écologique, cow-boy solitaire, extrêmement performant et pertinent, va, lui, de son côté, faire son petit chemin. Et il va utiliser un autre biais. Lui, il va utiliser la voie administrative. Il va considérer que les documents relatifs au sondage de l'Élysée sont des documents publics qui doivent lui être communiqués. Et donc, il va en demander officiellement la communication, se les voir refuser, aller devant la CADA, qui va les lui accorder, les exiger. Je ne connais plus la procédure exacte. Est-ce qu'il est allé jusque devant le tribunal administratif, le Conseil d'État ? Peut-être, je ne sais plus jusqu'où il va. Mais il finit par obtenir la communication de tous ces sondages. Et il va se rapprocher de moi, puisqu'il était également proche d'Anticor. Je ne sais pas s'il était adhérent ou pas, en tout cas, il était très proche d'Anticor à l'époque. Il suivait de près ce que je faisais, et on s'est retrouvé au fin fond d'un bar à Paris, et il m'a remis l'ensemble des... sur une clé, il m'a remis l'ensemble des sondages. Moi, j'avais que le rapport de la Cour des comptes, ce qui m'a permis, moi, de nourrir, et d'ailleurs, ce qu'a obtenu Raymond Avrier, c'est beaucoup plus que ce qu'a obtenu l'enquête préliminaire. Parce qu'entre-temps, eux, ils ont des choses qui ont disparu, les archives ont disparu, des choses qui n'ont pas été archivées, etc. Donc, ce qu'a obtenu Raymond Avrier m'a permis, moi, de constituer un dossier beaucoup plus complet. Moi, ma plainte, elle l'avait portée que sur le rapport de la Cour des comptes, qui ne visait en réalité de mémoire que la dernière année, je crois. Et moi, j'ai pu remonter, grâce au document de Raymond Avrier, j'ai pu remonter aux 5 ans précédents. Et donc, j'ai fait à ce moment-là une nouvelle plainte avec constituant de partie civile. Il y a eu un moment donné où il y avait deux procédures, parce qu'il y avait une enquête. Comme j'ai fait une nouvelle plainte, au parquet, puisque je ne pouvais pas aller tout de suite devant le juge d'instruction, il fallait que je laisse passer les 3 mois. Donc, j'ai refait une plainte simple. Il y avait l'arrêt de la Cour de cassation qui renvoyait le dossier devant le juge d'instruction, mais qui était partiel. J'ai attendu 3 mois, j'ai fait une plainte avec constitution de partie civile, et au bout d'un moment, j'ai demandé la jonction des deux dossiers. C'est comme ça qu'on est arrivé avec un dossier complet.
Et au terme de 6 années d'instruction, le 27 août 2019, le juge d'instruction Serge Tournaire ordonne le renvoi devant le tribunal correctionnel de 6 proches de Nicolas Sarkozy, en suivant les réquisitions du parquet. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui se passe à ce moment-là ?
Bah après, une fois que l'ordonnance de renvoi a été rendue, bah on n'attend plus la date d'audience, si vous voulez. Bon, moi, c'est une immense satisfaction, hein, parce que c'est énormément de travail pendant 6 ans.
Donc on a Emmanuel Mignon, Claude Guéant, Jean-Michel Goudard, Julien Voltré, Patrick Buisson et Pierre Giacometti. Ça, c'est pour les personnes physiques. Et 4 sociétés, Publifact, Publiopinion, Nocom et l'Institut Ipsos France, qui sont renvoyés pour des infractions de favoritisme, recel de favoritisme, détournement de fonds publics ou négligence à l'origine d'un détournement de fonds publics. C'est l'ensemble des infractions. On a une procédure qui dure 11 ans.
Ouais.
Avant d'aboutir à un renvoi devant le tribunal correctionnel, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ces délais ?
Ils sont insupportables. Ils sont insupportables parce qu'en réalité, on le sait quand on est avocat, partie civile, mais les magistrats le savent et la justice le sait. Plus le jugement s'éloigne du fait générateur, moins on considère que le trouble à l'ordre public est important. C'est bien. Une sorte de dilution de l'importance de l'infraction avec le temps. D'ailleurs, vous voyez que quand on dépose une plainte, là, c'est la presse, c'est partout. Quand on arrive au jugement 11 ans après, tout le monde s'en fout. Parce que, en réalité, ils sont tous à la retraite, ils sont grabataires, en gros, il n'y a plus de conséquences. Jacques Chirac, quand il est jugé, c'est jugé plus de 20 ans après. Il ne peut même pas comparaître à l'audience, tellement il est dans un état de sénilité avancé. Claude Guéant, quand il comparait, il a déjà été condamné à d'autres reprises, il est tout maigre, éploré, il n'a plus de fonction, il ne représente plus rien. Donc en réalité, la justice, elle est tellement longue à traiter un sujet important qu'elle n'a plus d'effet pédagogique, elle n'a pas d'effet concret sur le sens politique. Elle ne dit rien, en fait, puisqu'elle vient juger des gens qui ne sont plus dans l'action politique. Donc, c'est terrible à tout point de vue. Et finalement, la justice, une fois saisie, une fois qu'elle rend ses décisions, même quand elle condamne, elle n'ose pas condamner fort.
Est-ce que ce sont des délais qu'on retrouve dans les autres types de procédures ou...
La justice est lente. La justice est lente. La justice pénale est lente. Mais la justice financière est incroyablement lente. Elle est incroyablement lente pour plusieurs raisons. Elle est incroyablement lente parce qu'elle est peu dotée financièrement. Hein, donc on n'a pas assez de magistrats. Alors, j'allais dire, ces dernières années, j'ai vu qu'ils avaient recruté un peu, mais on n'a pas assez de magistrats. Mais surtout, on n'a pas assez de services enquêteurs. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez très peu de services spécialisés et toutes les enquêtes arrivent dans ces services enquêteurs. Et ils ne peuvent pas traiter. Le dossier des sondages de l'Élysée a été traité par une enquêtrice. Et comme c'est d'une grande complexité, une fois que vous êtes plongé dedans, vous ne pouvez pas le passer à votre collègue, il ne peut pas remonter l'ensemble du système. Donc, en réalité, vous n'avez pas assez d'enquêteurs, vous n'avez pas de volonté politique sérieuse de traiter la lutte anti-corruption. Et là, je ne vais pas plaider dans le sens des avocats, mais vous avez une utilisation des droits de la défense par les avocats des mises en cause de haute technicité. C'est-à-dire que le code de procédure pénale est très compliqué. 90% des gens qui sont jugés ils n'ont pas forcément beaucoup de moyens. Et donc le code de procédure pénale n'est pas forcément épuisé dans son utilisation. Là, vous avez des gens qui ont des moyens, dont la réputation est en cause, dont l'avenir politique est en cause. Et donc, eux, ils savent très bien ce que je vous disais tout à l'heure sur la longueur des procédures et sur l'intérêt d'éloigner au maximum le moment où ils vont être jugés. Parce qu'ils savent que tant qu'ils ne sont pas jugés, ils sont présumés innocents et qu'ils peuvent continuer à exercer. Dupond-Moretti aujourd'hui, Alexis Kohler aujourd'hui, ils sont toujours en poste. Et donc, plus on éloigne le moment judiciaire, plus ils peuvent continuer tranquillement à exercer. Et comme ils ont les moyens de financer une défense de haute technicité, ils prennent les meilleurs avocats de France, hein. Vous avez les plus grands pénalistes qui s'occupent d'eux, ce qui rend aussi la mission de l'avocat d'Anticor plus difficile, parce qu'on a moins de moyens, tout seul, je suis à Saint-Maur, j'ai pas 50 collaborateurs, hein. Et moi je vis pas avec Anticor, je vis avec tous les autres dossiers. Eux, ils peuvent vivre avec un dossier comme celui d'Alexis Kohler. Ils mettent 3 collaborateurs à temps plein sur Alexis Kohler. Moi, je ne peux pas. Donc, en réalité, il y a une inégalité des armes qui est liée aussi à l'inégalité des moyens du combat judiciaire et qui fait qu'ils ont tout intérêt à faire traîner. Et lorsqu'on arrive à l'audience, on a des questions prioritaires de constitutionnalité, on a des exceptions de nullité, on n'a pas encore fini.
Le procès s'ouvre le 18 octobre 2021. Comment vous préparez votre plaidoirie? Est-ce qu'il y a des moments de l'audience particulièrement révélateurs?
Quand j'arrive en 2021, j'ai 10 ans de bataille judiciaire, un peu plus de 10 ans de bataille judiciaire à Quanticor. Donc je me suis déjà frotté à des grosses audiences. Et donc je suis beaucoup moins terrorisé. C'est-à-dire c'est l'esprit de combativité l'emporte sur une angoisse. Le procès Chirac, c'était tétanisant parce que j'avais 30 avocats en face, les meilleurs de France. Moi, j'étais avocat inconnu. J'avais deux procureurs à l'audience qui venaient demander la relaxe. La salle était blindée de journalistes, des journalistes du monde entier. C'était incroyable, cette affaire. C'était la première fois qu'on juge un ancien président. Donc là, il y avait une espèce de pression qui m'a vraiment terrorisé pendant des mois, hein, je vous cache pas. Et ma plaidoirie, je me souviens encore au moment de l'affaire Chirac, 10 minutes avant de plaider, j'étais tellement angoissé que j'avais tout oublié. Je ne savais même plus comment j'allais commencer ma première phrase. Donc il y a des moments quand même très épuisants dans ce métier, hein. Là, au moment de l'affaire Sarkozy, moi, j'ai tout ce qui est problématique, j'allais dire, d'affrontement personnel, c'est réglé. Je me prépare de façon très structurée. C'est-à-dire que j'ai un avantage par rapport au dossier Chirac, c'est que j'ai le parquet avec moi. Entre-temps est né le parquet national financier. Ça qui change tout, hein. L'arrêt de la Cour de cassation d'octobre 2012, c'est avant. Et c'est ça, ce dossier pour moi, et moi je fais encore une parenthèse, mais ce dossier il est très important parce qu'il reconnaît pour la première fois implicitement, sans le dire, la recevabilité d'Anticor. Parce que ils sont tellement focalisés dans leur défense. Et quand je dis « ils », c'est le procureur de la République et la défense. Ils sont tellement focalisés par l'idée qu'il faut trouver un argument. Et donc, on va dire bah, « les délits de favoritisme, ça ne s'applique pas à l'Élysée ». Puis ils vont dire « ah bah il y a l'immunité qui s'étend ». Qui ne pensent pas à soulever l'irrecevabilité d'Anticor. Personne ne pense à soulever l'irrecevabilité d'Anticor.
Donc à remettre en cause son intérêt à agir. Mais
ce qui était là-bas, c'est on n'avait pas d'intérêt à agir, on n'avait pas le droit. On n'avait pas le droit. Il y avait certes eu l'arrêt Transparency International de 2010, ou 2009, mais je crois que c'est 2010, mais qui était un arrêt de chambre restreinte, qui n'avait pas de portée générale, et qui ne disait rien, mais personne n'a pensé à soulever l'irrecevabilité d'Anticor. Et la Cour de cassation, elle répond aux moyens qui lui sont posés. Comme on ne lui pose pas la question d'Anticor, elle dit « il y a délit de favoritisme, en tout cas vous pouvez pas ». Et l'immunité, elle ne s'étend pas. Et donc, octobre 2012, arrêt, vient reconnaître pour la première fois, et c'est en cela que c'est pour moi une victoire juridique et judiciaire énorme, elle vient reconnaître implicitement la recevabilité de cette association. Et après, bah, vous avez l'affaire Cahuzac, création du PNF, article 223 du Code de procédure pénale qui reconnaît la recevabilité des associations de lutte contre la corruption, dont Anticor, avec le décret, et paf, on rentre dans la recevabilité. Donc, ce qui change, pour répondre à votre question, ce qui change pour moi prodigieusement les choses par rapport à Chirac, c'est que j'ai le parquet qui vient faire des réquisitions de condamnation et qui me suit. Et j'ai une ordonnance qui me suit. Et donc, je suis partie civile. Mais je suis une partie civile qui n'a pas le rôle du procureur à faire. Même si je joue toujours un peu le rôle du procureur, parce qu'on est sur des infractions d'intérêt général. Hein. Mais l'ambiance est une ambiance à couteau tiré, mais c'est une ambiance où on connaît Anticor. Anticor n'est plus, je rappelle, hein, coucou judiciaire. Au moment du procès Chirac, Jean Veil dit « Anticor, c'est un coucou judiciaire ». Car Sainty, qu'est-ce que vous faites là? Sortez de la salle d'audience. Là, on est installé. Anticor est une association reconnue, respectée. Elle est recevable à agir. J'ai le procureur avec moi. Ça va, je suis installé. Vous voyez? Donc c'est une ambiance difficile, mais c'est une ambiance qui est quand même relativement sereine pour une procédure qui s'annonce un vrai combat, mais un combat qui restera sous l'angle du droit et pas celui des anathèmes.
Nicolas Sarkozy, dans cette affaire, a été convoqué. Est-ce que vous pourriez nous dire à quel titre et les questions que ça a posées?
Ça, c'est encore une belle victoire d'Anticorps. C'est une belle victoire d'Anticorps, puisque moi, depuis le début, je dis, attendez, c'est pas possible de juger cette affaire. Ok, il y a l'irresponsabilité pénale de Nicolas Sarkozy, mais depuis le début, je dis, il n'est pas possible que Nicolas Sarkozy ne soit pas entendu, au moins en qualité de témoin. C'était le minimum syndical. Donc j'avais fait cette demande d'acte devant le juge d'instruction. Le juge d'instruction, juge Tournaire, avait convoqué Nicolas Sarkozy, qui avait fait savoir qu'au nom de son irresponsabilité, de son inviolabilité en tout cas, il ne pouvait pas répondre en sa qualité de témoin et il n'est pas venu. À l'époque, le juge Tournaire n'avait pas souhaité ordonner la convocation de Nicolas Sarkozy avec l'appui de la force publique. C'était son choix, moi je ne pouvais rien faire, on est parti civil, on n'est pas procureur. Hein, donc ok. Donc l'affaire se présente en l'état, et moi je sais que ce dossier, je vais vous dire la vérité, ce dossier, la presse s'y intéresse plus, quasiment plus. En gros, il s'est passé 10 ans, Nicolas Sarkozy, Guéant, tout ça, on sait qu'ils sont morts politiquement, ça n'intéresse plus. Moi, j'ai, une question de droit que je me pose, c'est que je trouve inadmissible, fondamentalement, et là, en tant que citoyen, que Sarkozy ne comparaisse pas, au moins comme témoin. Et deuxièmement, je me dis qu'il faut faire levier pour qu'on parle un peu de ce procès et de l'action d'Anticorps. Et que la seule manière de parler d'Anticorps, de ce procès, c'est de faire venir Nicolas Sarkozy. Donc je sais que dans ma démarche, j'ai une démarche qui est une démarche purement juridique et qui est en lien avec la cohérence de mon procès depuis le début, mais aussi en me disant, ben voilà, il faut mettre un coup de projecteur sur ce dossier parce qu'on ne s'est pas battu depuis 10 ans pour que ça passe à la trappe. Et je crois quand même, je continue à essayer de croire en la pédagogie judiciaire. Et je crois que voilà, ces procès sont aussi l'occasion de parler aux citoyens et de rendre un peu justice aux citoyens. Parce que ça, pour moi, Anticorps, c'est qu'il y a un sentiment de réparation. Le citoyen a souvent le sentiment que les politiques, finalement, il y a un sentiment d'impunité, ils ne risquent rien. Et quand on fait un éclairage, ben voilà, là, par exemple, Sarkozy, ben, le citoyen, il se sent un peu réparé dans son sentiment d'injustice. C'est mon idée, en tout cas. Et donc je fais ce qu'on appelle une citation à témoin. Je demande à ce que Nicolas Sarkozy soit entendu. Nicolas Sarkozy fait savoir par une lettre qu'il ne se présentera pas en raison du principe d'inviolabilité, dont je vous rappelle ce que ça veut dire, ce que dit l'article 67 alinéa 2 de la Constitution. On ne peut pas entendre comme témoin un président en exercice. Cette inviolabilité cesse un mois après le terme du mandat du président de la République. C'est l'article 67 alinéa 2.
Et on est en 2021.
Et on est en 2021. Donc il n'y a aucune raison pour que Nicolas Sarkozy excipe de l'inviolabilité pour ne pas répondre comme témoin. Et pourtant il le fait. Il le fait, le président lit cette lettre et estime qu'elle n'est pas fondée. Et il fait savoir, et vous savez que c'est quand même un procès public avec des proches de Nicolas Sarkozy, voilà, que Nicolas Sarkozy entende que s'il ne se présente pas, nous irons le chercher avec les gendarmes. Là. Donc, si vous voulez, il y a un froid dans la salle d'audience, parce que moi, je suis encore passé pour quelqu'un qui faisait des esclandres, qui lançait des choses impossibles, tout le monde s'est opposé, le parquet s'est opposé, là. Pareil, le procureur de la République n'a pas souhaité et a même dit... Il ne faut pas convoquer Nicolas Sarkozy. Donc là, j'étais encore tout seul, ça a été encore levé de bouclier de la défense qui fait son boulot, hein, il n'y a pas de problème. Mais voilà, il y a souvent ce sentiment qu'on se bat contre beaucoup d'opposition. Mais j'avais le tribunal avec moi. Et le tribunal, par cette information, a contraint Nicolas Sarkozy à venir.
Une fois qu'il était présent dans la salle d'audience, comment s'est déroulé le...
C'était marrant parce que il a été fidèle à lui-même. Il a dit au nom de la séparation des pouvoirs, je ne répondrai à aucune de vos questions. Donc le président avait prévu une 15aine de questions et il a toujours répondu, voilà, Au nom de la séparation des pouvoirs, je ne peux pas répondre. Au nom de la séparation des pouvoirs, je ne peux pas répondre. Voilà. Et donc moi, en tant qu'avocat d'Anticor, et d'ailleurs toutes les parties ont été invitées à poser des questions, je me suis dit, si je pose des questions sur le fond du dossier, il va me répondre la même chose. Au nom de la séparation des pouvoirs, je ne peux pas vous répondre. Et donc, j'ai plus en tête l'ensemble des arguments qu'il avait développés dans sa lettre, mais je me suis dit, je vais me décaler. Et je vais plutôt me placer, non pas sur le terrain du fond du dossier, mais lui demander d'expliquer son raisonnement juridique. En quoi l'inviolabilité ayant cessé en 2012 pouvait encore s'appliquer en 2021. Et j'ai essayé de voir avec lui, de travailler avec lui sur la séparation des pouvoirs, sur l'inviolabilité. Donc j'ai posé des questions. Ça n'a pas duré 15 ans, mais ça a duré 10 minutes. Et 10 minutes où il ne m'a pas répondu, je ne peux pas vous répondre au nom de la séparation des pouvoirs, et il a été obligé un peu d'articuler quelques raisonnements qui se sont vite heurtés à l'absurdité du raisonnement. Et moi, c'était une satisfaction juste intellectuelle. Mais au moins, il avait répondu. Et au moins, à mon sens, il était apparu ridicule.
Vous vous souvenez exactement de ces formules ?
Non. Là, je ne vous dirai pas. Je vais trahir, mais...
Alors, je voulais lire. L'irresponsabilité est définitive. Je n'ai pas à répondre d'actes commis dans mes fonctions de président de la République devant un tribunal. À travers ma personne, les juges tentent de pratiquer une immixtion dans le pouvoir politique. J'ai été président de la République, c'est ma lecture de la Constitution, c'est une conviction. J'ai le droit d'avoir des convictions. Vous ne pouvez pas considérer que c'est dilatoire ou irrespectueux.
C'est drôle, non? Il a le droit d'avoir des convictions. Ce qui est marrant, c'est qu'en matière de droit, c'est pas une question de conviction, le droit. Le droit... Après, on peut avoir des convictions dans la vie, des convictions politiques, mais le droit, c'est quand même d'application stricte. Et moi, j'avais même été plus loin, puisque j'avais dit c'est une infraction. Il y a une obligation de témoigner. La loi, code pénal, code de procédure pénale, dit si vous êtes convié à témoigner, vous devez témoigner. Or, j'ai considéré, d'ailleurs je l'ai plaidé, que il n'avait pas témoigné, que le simple fait de venir n'était pas un témoignage, qu'il avait refusé de témoigner. Et qui devait être poursuivi. Et j'ai demandé au parquet de poursuivre. On ne l'a pas fait. Mais voilà, ça fait partie des scénographies d'un procès.
Le 21 janvier 2022, Claude Guéant a été condamné à 1 an d'emprisonnement, dont 4 mois avec sursis. Emmanuel Mignon à 6 mois de prison avec sursis. Pierre Giacometti à 6 mois de prison avec sursis et 70 000 euros d'amende. Patrick Buisson à 2 ans de prison avec sursis et 150 000 euros d'amende. On parle d'un préjudice de près de 9,4 millions d'euros d'argent public qui ont servi des intérêts autres que l'intérêt général. Quel regard portez-vous sur la nature et le quantum de ces peines ?
C'est difficile parce que je suis avocat et que je ne crois pas en l'exemplarité des sanctions pénales ordinairement. C'est-à-dire, je suis pas là, moi je suis un avocat de partie civile qui ne doit pas demander de peine. Et quand je suis du côté de la défense, je considère que la prison ne répare pas. Et donc, je suis dans une ambiguïté réelle. C'est-à-dire que, à la fois, je considère que les politiques sont épargnés par la justice. Parce que 9,4 millions, si on fait un braquage de 9,4 millions d'euros, je ne pense pas qu'on prend 6 mois de prison en France. Donc, les peines sont sous-évaluées. Elles sont bien sûr sous-évaluées par rapport aux autres délinquants. Alors que ça devrait être beaucoup plus lourd. On est face à des gens qui sont responsables, qui connaissent la loi, qui représentent l'intérêt général, qui sont des élus du peuple et qui donc devraient être irréprochables. Et ce caractère d'irréprochabilité devrait conduire les tribunaux à prononcer des sanctions extrêmement lourdes. Mais ça, on a un décalage qui est un décalage... Moi, je pense qu'il y a de la sociologie judiciaire à faire, qui tente à changer, hein, parce qu'on a quand même des condamnations. Balkany a pris 4 ans, mais il est quand même relâché au bout d'1 an, parce qu'il est malade. Mon Rome qui a volé du câble électrique, il a beau être malade, il crève en prison. Hein. Donc, il y a quand même toujours deux poids, deux mesures. Il y a... un rapport qui est un rapport d'identification. C'est des gens qui s'expriment bien, qui sont bien habillés, qui sont blancs, qui ont fait les mêmes études, souvent, que le juge. Et donc, il y a une forme d'identification des magistrats au prévenu qui juge, s'il n'y a pas une lucidité vraiment des magistrats et de déconstruction de leurs propres préjugés sociaux, ben on n'y arrivera pas. Mais ça, c'est quelque chose qu'on pourrait décliner voilà, sur toutes les affaires. Hein, quand on est noir, détenu, voilà, on est toujours moins bien jugé que quand on est blanc et bien habillé. Ça, voilà. C'est aussi ça, la justice.
Et aujourd'hui, Nicolas Sarkozy représente la France à l'étranger. Emmanuel Mignon exerce voilà. dans un cabinet d'avocat. Voilà. Tous ces éléments, ça dit aussi des choses de notre société
oui.
qui rejoignent ce, que, ce que vous venez de dire.
Oui.
Selon vous, quelles seraient les réformes importantes pour lutter contre la corruption ? Et comment l'association Anticor pourrait porter ses propositions dans le débat public ?
Indépendamment des réformes, la question des moyens financiers à la justice de lutte anticorruption, c'est essentiel. C'est essentiel parce que aujourd'hui, la justice n'a tellement pas de moyens pour lutter contre la corruption qu'elle signe des conventions judiciaires d'intérêt public. C'est-à-dire qu'en fait, elle fait des contrats avec les corrompus parce qu'elle n'a pas les moyens d'enquêter. Et donc, on préfère signer un contrat en disant bah, « Tiens, un tien vaut mieux que deux, tu l'auras, je récupère tant de millions d'euros, mais la société se retrouve non inscrite au casier judiciaire. » Donc pourquoi ça ? Pourquoi il y a ces CGIP, Convention judiciaire d'intérêt public, ou ces CRPC, Convention sur reconnaissance préalable de culpabilité, plaider coupable à la française ? C'est parce qu'on n'a plus les moyens d'enquêter suffisamment, intelligemment, au regard des moyens mis à disposition des forces qui arrivent à corrompre. Alors aujourd'hui, les grosses entreprises, les multinationales, les GAFA, elles ont plus de moyens qu'un État. Donc, comment voulez-vous que la justice française puisse lutter à armes égales sur la lutte anticorruption ? Donc le problème majeur et massue, avant tout, c'est des moyens financiers. La deuxième chose essentielle, c'est l'indépendance de la justice et surtout l'indépendance du parquet. On a un parquet national financier qui fait un beau travail, mais tant qu'on aura collusion entre, quand je dis collusion, c'est-à-dire un lien direct de subordination entre procureur de la République et le pouvoir exécutif, on n'aura pas une justice qui pourra enquêter librement et il y aura toujours des risques de conflits d'intérêts au sein même de l'exercice de la justice. J'ai noté des choses moins importantes, mais quand même, dépaysement systématique des affaires de corruption locale. Moi, je suis saisi par la France entière de lanceurs d'alerte pour des corruptions locales qui mettent en cause des élus locaux. Les parquets protègent. Ils ne protègent pas parce qu'ils sont corrompus. Ils protègent parce que quand vous travaillez, quand vous êtes élu, vous travaillez avec le parquet local pour la protection de la police municipale, de la police, voilà, de l'ordre public. Et donc, c'est impossible de poursuivre un maire avec qui on bosse, on se retrouve le 31 décembre sous l'arbre de Noël. C'est impossible. Donc, il faudrait automatiser le dépaysement des affaires locales. J'ai noté la pénalisation du conflit d'intérêts. Conflit d'intérêts, c'est le problème endémique français. Je pense que ce n'est pas le seul, mais c'est un problème majeur et qui est sous-évalué parce qu'on est sur des prises illégales d'intérêts. L'infraction de prise illégale d'intérêts est une infraction microscopique au regard des conflits d'intérêts qui gouvernent en réalité et qui perturbent et abîment la décision publique. Et je serais pour une interdiction totale, étanche, de ce qu'on appelle le pantouflage, c'est-à-dire le passage public-privé qui permet en réalité, au nom de compréhension et de carrière, à des fonctionnaires de devenir agents privés, à des agents privés de devenir fonctionnaires, et des allers-retours qui en réalité sont nocifs pour la décision publique. Sur la lutte anticorruption, je pense qu'il est temps qu'Anticor se saisisse des problématiques de santé publique, des problématiques environnementales, des problématiques sanitaires, et ça c'est aujourd'hui la corruption, elle est là, et c'est toutes les problématiques de conflit d'intérêts, j'en dirai pas plus.
Et sur la réforme de la police judiciaire, est-ce que vous pensez que ça va dans le bon sens ?
Non. C'est une réflexion. Quant à la police judiciaire, si la police judiciaire est placée sous l'autorité du ministre de l'Intérieur, ben voilà, vous avez compris. C'est-à-dire qu'en réalité, la police judiciaire qui dépendait d'un parquet, qui n'est pas une autorité judiciaire indépendante, mais qui aussi dépendait d'un juge d'instruction qui pouvait ordonner des missions. On a vu des polices judiciaires qui devait respecter l'ordre judiciaire, l'ordre d'un juge indépendant. Si demain, c'est sous la tutelle du ministre de l'Intérieur, bah, ça va dans le sens contraire de l'indépendance souhaitée et des investigations souhaitées par l'indépendance et le souci de, j'allais dire, d'impartialité de l'enquête.
Est-ce que vous voudriez partager autre chose ?
Oui, après, la question de fond, c'est qu'au final, la corruption, elle progresse. Et moi, c'est ma réflexion de fond, c'est qu'au final, vous avez des victoires, mais qui sont des victoires à la Pyrrhus, parce qu'on s'attaque, et on s'est attaqué beaucoup, à la corruption politique. Hein, bon, les élus, le conflit d'intérêts, je ne dis pas que ce n'est pas important, c'est important. Mais en termes de coût pour l'État, ce n'est pas le plus grave. Et la corruption la plus importante, c'est la corruption qu'on ne voit pas, et il nous faudrait beaucoup plus de technicité, une justice beaucoup plus élaborée pour pouvoir aborder les vrais sujets de corruption. Je ne dis pas qu'on ne les aborde pas, mais on les aborde de manière insuffisante au regard de la lutte nécessaire.
Merci beaucoup.
Ouais,
merci à vous.
C'est la fin de cet épisode. Pour plus d'informations sur cette affaire et plus généralement sur les faits de corruption en France, rendez-vous sur anticor.org. À bientôt.